Chapitre 6. La revanche. Mademoiselle André de Maubreuil, son ami Frédéric, leur fiancé, l'ingénieur Pagano, le naturaliste Ravenel et le poète Agénor, fait prisonnier par Slug à la suite de l'incendie allumé par celui-ci, ne pouvaient sortir des cabines qui leur avaient été assignées. Sans l'intervention de la danseuse Dorifa, la gitane, il était hors de doute qu'ils eussent été tous massacrés. Mais elle avait pris courageusement leur défense, puissamment secondée en cela par son amant, le belge Pierre Gilking, et les partisans de ce dernier. Les Français, réunis dans la même cabine, se confiaient mutuellement l'inquiétude à laquelle ils étaient en proie. Ils avaient entendu les coups de canon tirés par ordre de Slug. Ils voyaient de loin la côte se préciser de minute en minute à leur regard. Ils se demandaient anxieusement quel allait être leur sort. Allait-on, ainsi que l'avait vaguement promis Slug au flamand Gilking, déposer les prisonniers à terre et les laisser libres d'aller où bon leur semblerait? Ils se l'étaient figuré un instant, mais quand ils avaient vu qu'en face de cette terre inconnue, Slug arborait fièrement le pavillon noir à la main sanglante, qu'ils avaient vu les habitants répondre à la salve des coups de canon de la revanche par une autre salve, ils étaient devenus mortellement anxieux. C'est à ce moment que Dorifa fit irruption dans la cabine, le visage bouleversé et les cheveux épars. « Nous sommes perdus !» s'écria-t-elle. « Ce misérable Slug nous a menés à l'île des pendus. C'est le pavillon de la mer rouge que je viens de voir flotter au-dessus de cette terre maudite !» Le silence de la consternation accueillit ces paroles. « Il ne nous reste, » dit l'ingénieur en échangeant avec Roger Ravenel un coup d'œil de désespoir, « qu'à vendre notre vie le plus chèrement possible. »« Je vous en supplie, mon cher Roger !» s'écria Frédéric. « Tuez-moi plutôt que de me laisser tomber vivante entre les mains de ces bandits !»«
Oui, tuez-nous !»
murmura mélancoliquement André de Maubreuil. La gitane tira de son corsage une lunette marine qu'elle avait subtilisée dans la cabine de Slug, et, l'attendant à Agénor,
« Regardez, dit-elle, rendez-vous compte par vous-même de la vérité !»
Le poète approcha l'instrument de ses yeux et le mit au point. Mais il avait à peine eu le temps de jeter un regard sur la côte qu'il poussa un cri de joie et de triomphe.
« Nous sommes sauvés » balbutia-t-il éperdu. « Savez-vous qui je viens d'apercevoir admirablement déguisé en Trumps ? Je vous le donne en mille !»«
Ne nous faites pas languir !» s'écria Frédéric.
« Mon excellent ami Lord Bury dans lui-même !»«
Ce qui signifie ?» demanda la gitane tout étonnée de ce brusque revirement.
« Que l'île des pendus est maintenant au pouvoir de nos amis !»«
Mais pas un mot de ce que je viens de vous dire. Si Slug se doutait d'une pareille chose, il serait capable de nous massacrer tous. » »«
J'ai toutes les raisons possibles d'être discrète, mais j'espère que vous n'oublierez pas ce que mon brave ami Pierre Gilking a fait pour vous. »
« Soyez tranquille, mais ne dites rien à personne, même à Pierre Gilking. Seulement, faites en sorte que lui et les siens, dans leur propre intérêt, se séparent de nous le moins possible. » Quelques minutes plus tard, Slug en personne pénétrait dans la cabine des Français. Il avait l'air à la fois ironique et menaçant.
« Maintenant, dit-il brutalement, la plaisanterie a assez duré. Vous allez obéir à mes ordres et cela sans faire la moindre observation. À présent, messieurs et mesdames, vous êtes sur les domaines de la mer rouge, et là, vos protecteurs ne vous serviront de rien. Allons. « Dépêchons-nous de monter sur le pont, tous !»
Il ajouta avec un rire goguenard.
« Vous voulez aller à terre? Eh bien, soit. Je vais vous y faire descendre. Je suis un homme de parole, moi. »
À la grande surprise du bandit, aucun des prisonniers ne fit la moindre observation. Tous montèrent sur le pont et, de là, descendirent dans la grande chaloupe où se tenaient déjà 7 ou 8 tramps. Dorifa avait pris place à côté d'eux. Pierre Gilking et les plus dévoués de ses partisans l'y rejoignirent. Slug ne fit rien pour les en empêcher. Il se disait qu'une fois à terre, tous seraient absolument à sa merci. Dorifa avait eu le temps de dire quelques mots à l'oreille du Belge, qui, très calme, attendait silencieusement les événements. Slug, qui s'était embarqué le dernier et avait pris place à la barre, demeurait silencieux lui aussi. Mais son visage exprimait un triomphe insolent. La chaloupe vint se ranger contre le quai, et ceux qui y avaient pris place débarquèrent dans l'ordre suivant. D'abord, un groupe composé des partisans de Slug, puis les prisonniers, enfin Dorifa, Gilking et leurs amis. Slug fermait la marche. Les hommes de Lord Buridan, rangés à droite et à gauche, formaient la haie, la carabine sur l'épaule et le revolver à la ceinture. Slug les dévisagea d'un regard perçant et, ne reconnaissant pas les barbes touffues qui faisaient pour ainsi dire partie de l'uniforme des Trumps, le rusé et bandit eut un vague soupçon. Sous prétexte d'amarrer la chaloupe à un anneau, il demeura un peu en arrière du groupe. Bien lui en prit. Ses compagnons avaient à peine fait quelques pas qu'ils se trouvèrent entourés, cernés et désarmés. Les partisans de Pierre Gilking allaient subir le même sort si Pagano n'était intervenu. Les bandits, solidement garrottés, furent jetés à terre aux pieds des deux jeunes filles,
tellement émue de ce coup de théâtre qu'elle demeurait sans parole. Slug, lui, en avait assez vu. D'un regard, il avait jugé la situation. Tout d'un coup, il se jeta à la mer, plongea et se mit à nager vigoureusement.
« Tirez donc !» ordonna l'ingénieur. « C'est un des chefs de la main rouge. Il faut le prendre mort ou vif !»
Slug, excellent nageur, avait plongé de nouveau pour reparaître 10 mètres plus loin. Quelques balles sifflèrent à son oreille. Mais on finit par le perdre de vue. Avec sa rapidité de décision habituelle, il avait compris qu'il eût été imprudent pour lui de revenir à bord de la Revanche, qui, ancrée sous les feux des canons de l'île, ne pouvait songer à regagner le large. Après avoir nagé pendant un quart d'heure entre les récifs, il prit terre dans une baie isolée et, se cachant le long des buissons comme un lièvre poursuivi par les chasseurs, il s'enfonça dans l'intérieur de l'île qu'il connaissait admirablement et atteignit bientôt le musée souterrain où se trouvait l'étrange collection de pièces anatomiques visitée auparavant par M. Bondonat. Après avoir constaté que personne ne l'avait suivi, il fit jouer la pierre de l'entrée et s'introduisit dans la caverne. Deux hommes, les seuls avec lui à connaître les secrets de cette retraite, l'y attendaient déjà. C'étaient Julian et Johnny, les deux graveurs en faux billets, dont l'un, on le sait, ressemblait trait pour trait au docteur Cornelius, tandis que le second offrait la physionomie exacte de Fritz Kram. La pierre, une fois remise en place, ils l'assujettirent inférieurement avec une lourde barre de fer. Ils étaient sûrs désormais que personne n'irait les chercher dans cette cachette. Pendant ce temps, Lord Buridan et Oscar s'étaient jetés dans les bras de leurs amis. L'excentrique commença par prévenir discrètement l'ingénieur Pagano de la mort de M. Bondonat, et le jeune homme et son ami Ravenel attirèrent à l'écart les deux jeunes filles pour les préparer doucement à la terrible nouvelle. En même temps, Lord Buridan racontait à Agénor les péripéties de la prise de l'île. Il lui expliquait comment, par un procédé très employé par les agences de publicités américaines, il avait cinématographiquement projeté, en se servant des nuages en guise d'écran, les apparitions qui avaient tant épouvanté les Tramps. Les gambades des clowns dans la mâture et la peinture phosphorescente dont le yacht avait été enduit avaient complété l'effet de cette mise en scène fantasmagorique. Enfin, c'était le clown nageur qui avait, au péril de sa vie, fait exploser les torpilles. Une heure après, les bandits qui occupaient la Revanche, démoralisés par la perte de leur chef, se rendirent à discrétion. La Mer Rouge était vaincue, battue pour ainsi dire avec ses propres armes. Les Français allaient donc pouvoir infliger aux bandits un sévère châtiment, récompenser comme ils le méritaient Dorifa et ses amis, enfin accorder un juste tribut de larmes à la mémoire du malheureux savant assassiné par les bandits. Fin du 12e épisode.